La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et bien de retour pour la midinale, c'est la deuxième partie avec la partie s'informer autrement. Et ben Pierre, je crois que tu avais quelque chose à dire par rapport à un dinosaure.
Ouais. Bah ouais, un dinosaure Jones, quoi, comme Laurent Geoffrin. On a écouté Radical Kitten, les chatons radicaux s'appelaient Blind, et Bror Gunnar Jansson, God Have Mercy. Alors voilà, sur ces belles paroles, je voulais vous parler du général Pierre de Villiers. Vous connaissez ?
Le frère de Philippe ?
Exactement. Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon, dit Pierre de Villiers. Et plus particulièrement à partir d'un article par Acrimed, qu'on peut retrouver sur le site d'Acrimed, acrimed.org, qui s'appelle « Général, nous voilà ». Les éditocrates avec Pierre de Villiers. C'est un article de Kylian Sturm et Pauline Perronneau. Et ça nous présente en gros la montée en puissance médiatique, disons, de ce général. Donc, on en avait entendu parler au début du mandat de Macron, c'était le chef d'état-major des armées. Sortant, on va dire, de la fin du mandat Hollande, et il s'était démissionné, disons, en présentant ça, en tout cas, comme un différent sur le budget de l'armée. C'est-à-dire, évidemment, c'est un général, donc il veut augmenter le budget de l'armée, et Macron s'engageait pas assez à son sens dans ce sens-là, ou quelque chose comme ça, lui avait demandé de baisser le budget. Ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est pas vraiment ce qui s'est passé, donc bon. On sait pas bien pourquoi, à mon avis, il s'est barré, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le présentait. Et depuis, il a écrit des livres. Donc, ça s'appelle... que je retrouve ça. Servir. C'est ce qui explique le livre qui expliquait sa démission, un peu, voilà. Non. Comment ils s'appellent, les autres ? Je ne sais plus. Et je retrouverai pas. Et un dernier en octobre, là, sur qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, face au péril islamiste. Et donc, l'article d'Acrimed, il date du 17 novembre. Donc, toujours quatrième sur l'info à Radio Piquet, mais ça nous montre comment, depuis, en gros, l'attentat contre Samuel Paty... ce général là, il est invité partout, à la télé, à la radio, on lui déroule le tapis rouge dans les rédactions des grands journaux, etc. Je vais vous lire le chapeau de l'article. Dans la séquence médiatique réactionnaire ayant suivi l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice, on a assisté à un phénomène édifiant, la promotion médiatique quotidienne de l'ex-chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. À la faveur d'un livre publié le 14 octobre, le militaire est invité partout. Les journalistes ont ainsi pris prétexte de cette publication pour solliciter son avis sur les stratégies guerrières à mettre en œuvre contre l'islamisme. Et pour plébisciter en fanfare un potentiel candidat en 2022. L'ancien général serait une incarnation de l'ordre et de l'autorité à la fois perdue et souhaitée par « les Français », entre guillemets. C'est ce qu'affirment de concert les chiens de garde. À moins qu'avec cette nouvelle séquence, exemplaire de la construction d'un produit médiatique, ces derniers nous racontent surtout beaucoup d'eux-mêmes. Donc voilà, l'article d'Acrimed, il va décrypter évidemment le rôle des journalistes là-dedans. Je vais vous en passer un petit extrait. Bon, je commence par un petit extrait, donc toujours de l'article d'Acrimed, hein, il y a des petits montages des journalistes qu'il a en face, ce Pierre de Villiers, je pense que vous reconnaîtrez à la voix la plupart. C'est les bons chiens de garde de base, quoi, vous allez voir. Et ça montre la construction d'une candidature à la présidentielle en 2022. Alors, on écoute ça.
Par voilà. Des personnalités.
Depuis le début, ça va être mieux.
Réparer la France, c'est le titre de votre livre, le troisième aux éditions Fayard.
Il a été chef d'état-major des armées avant de claquer la porte au nez du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Cet invité, c'est le général Pierre de Villiers.
Du 7 au 11 novembre, Pierre de Villiers a été interviewé 17 fois dans les grands médias.
Bonjour général Pierre de Villiers, merci de nous accorder cet entretien.
Bonjour UTKF.
Vous avez le sens du devoir, général de Villiers. Est-ce que vous pourriez incarner ces idées que vous poussez? Je vais dire les choses clairement puisque l'heure n'est plus ni à la langue de bois ni à tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que votre candidature à la présidentielle pourrait avoir un sens aujourd'hui?
Tout ça, à chaque fois, vous proposez des pistes de réflexion, voire de solutions. Excusez-moi, monsieur de Villiers, mais ça ressemble à un programme politique.
Dans les derniers chapitres, que vous laissez entendre que vous ne seriez pas candidat, contrairement à ce que disent certains.
Mon c'est une certitude ou pas, ça ? Mon livre.
Votre sens du devoir ne vous mènera pas jusqu'en 2022, si j'ai bien compris.
Ce que vous venez de dire, là, c'est un programme politique.
Oui, mais vous savez bien que la France, la droite en l'occurrence, cherche un homme providentiel, a un besoin d'autorité. Vous pourriez formidablement les incarner.
Donc, vous pourriez vous projeter dans un poste, dans une carrière politique.
Un militaire, un général, ça prend ses responsabilités, non? Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de rentrer dans l'arène politique.
Et vous, sérieusement, est-ce que, par exemple, sur la présidentielle, je ne vais pas vous taquiner tout ça, vous dites oui, vous dites peut-être ou vous dites non?
Je vous écoute attentivement, général, c'est pas la première fois. Jusqu'à présent, j'avais...
Service public, c'est...
Vous avez reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un général à la retraite, toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre aujourd'hui un homme politique qui se prépare à une campagne et pas à une campagne militaire. Je me trompe ?
Pourquoi est-ce que ces idées-là, que vous mettez encore une fois noir sur blanc dans ce livre, comme dans les précédents qui ont rencontré un grand succès populaire, eh bien vous ne les portez pas vous-même dans le cadre de la prochaine présidentielle en 2022?
Donc moi, quand je vous entends, je me dis, tiens, il se prépare à répondre à une forme d'appel qui est lancé de ci, de là, par des personnalités qui attendent l'arrivée d'un sauveur face à Emmanuel Macron et qui ne serait pas Marine Le Pen. Alors, est-ce que vous allez être cet homme-là?
Et ça alors, ok. Donc, vous voulez pas vous lancer dans la politique, on est d'accord?
Écoutez, j'ai pas écrit ce livre
pour ça,
pour faire de la politique.
Vous savez qu'on vous retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les sondages sur la prochaine présidentielle. Alors, est-ce que vous y allez? Et combien de bataillons vous avez justement?
Monsieur de Villiers, j'entends tout ça.
Aujourd'hui.
Est-ce que c'est vous, est-ce que vous les incarnez vous-même et vous dites, bah tiens, moi j'ai envie de tenter ma chance, pourquoi pas?
Aujourd'hui. On voit qu'il faut emprunter.
Pour qui, général? C'est bien ça le problème. Pour qui? Il faut l'incarner, en fait, vos idées. Qui va les incarner?
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que vous ou quelqu'un d'autre incarne vos idées? Qui incarne ces idées aujourd'hui parmi les politiques?
Qui incarne ça aujourd'hui, alors? Puisque vous voulez pas y aller en 2022. Dites-moi qui incarne vos idées.
Aujourd'hui, dans le...
Personne. Qui incarne aujourd'hui... Vous allez voter en 2022? Alors, qui incarne vos idées?
Attendez.
J'attends pas.
Plusieurs façons.
Qui incarne vos idées? J'attends pas du tout. Qui incarne vos idées aujourd'hui?
Il y a plusieurs façons.
Qui incarne vos idées? Marine Le Pen incarne vos idées?
Non, voilà.
Et d'où le fait que certains, comme on aimerait, si on en croit les sondages et si on en croit les réseaux sociaux, le voir se présenter à la présidentielle. Alors lui, il dit que non, mais vous savez, tous ont dit non avant de se présenter, avant de devenir président. Voilà.
Un homme à suivre, Pierre de Villiers.
Voilà. Joli montage d'Acrimed. Donc je suis tombé là-dessus, j'ai été faire un tour aujourd'hui dans le monde, ou hier dans le monde, il a un bel article aussi façon Pravda, dithyrambique sur ce qu'il est, et donc toujours avec une idée de candidature à la présidentielle en tête. Moi, ça me fait un petit peu flipper, parce qu'en gros, ce serait voilà, l'homme de droite, voilà, un général, hein, en mode De Gaulle. Ça nous a fait penser un peu aussi à toutes les célébrations de De Gaulle ces derniers temps. Et donc, ce serait le candidat de la droite. Et donc, évidemment, allant s'intercaler quelque part entre Macron et Le Pen pour nous raconter déjà que Macron n'est pas de droite et pour voilà, avoir un candidat de droite dite dure à présenter aux électeurs. Donc un général président, ça fait flipper pour bon, pas mal de raisons, on va dire. C'est donc le frère de Philippe de Villiers, dont il partage peut-être pas les convictions royalistes, mais, quoi qu'élire un général, c'est toujours un petit peu dangereux, hein. Mais en tout cas, qui est de droite catholique, traditionnelle, donc au niveau plus question morale et tout, ça fait un peu flipper aussi. Ce qui est dingue, c'est la construction. Moi, ça faisait un moment que je regardais les médias quand même depuis quelques mois et sans voir la construction d'une candidature à l'élection présidentielle, comme il y avait eu pour Macron des mois et des années avant. Donc, ça, je me demandais un peu ce qui se passait. Bon, évidemment, il y a la construction de Marine Le Pen, hein, du Front National, qui est invitée tout le temps, dont les idées dominent les médias dominants. Mais je suis pas sûr que, voilà, est-ce que c'est elle qui va être mise en avant par les médias. Et donc là, en effet, c'est assez flippant. Hein, depuis le 17 novembre, ça a pas trop changé. Je vous lis ce que remonte Google en news quand tu tapes Pierre de Villiers. Et donc, c'est que des titres d'articles qui datent d'aujourd'hui. Je remonte pas plus tard qu'hier. Le Figaro, général de Villiers, ma crainte, c'est la guerre civile. Le Monde, le général Pierre de Villiers ou la tentation d'une percée en politique. Ouest France, présidentielle, il voit le général de Villiers comme une espérance. Une interview de je sais pas qui. Valeur actuelle, ma crainte, c'est la guerre civile. Le général de Villiers inquiet pour la France. RTL, le général de Villiers dit craindre une guerre civile en cette période de crise. Le Télégramme, 5 choses à savoir sur Pierre de Villiers, le général qui viserait l'Elysée. Le Parisien, le général Pierre de Villiers, entre guillemets, les Français réclament de l'autorité. Closer, le général de Villiers, candidat à la présidentielle 2022, point d'interrogation. Ouest France, manifestation violente, climat social tendu, le général de Villiers déplore un climat instable. Entreprendre, Pierre de Villiers, je ne fuirai pas mes responsabilités, trois petits points. Le temps, général Pierre de Villiers, la France est en état de fracture. Voilà, ça c'était déjà il y a 3 jours, donc je suis remonté un petit peu plus loin que prévu. Vous voyez l'ampleur un peu de l'offensive médiatique, quoi. On a à peu près tous les grands médias. Ce qui manque là-dedans, remonté par Google, c'est toute la PQR, la presse quotidienne régionale, qui est elle aussi contrôlée par des milliardaires, hein, mais là ils contrôlent plusieurs titres parce que ça coûte moins cher. Et dans la PQR, c'est pareil. Donc là, par exemple, il y avait le Télégramme. Google doit savoir que c'est le Télégramme et l'Ouest France, c'est ça qu'il faut m'envoyer, et pas les dernières nouvelles d'Alsace. Mais dans la PQR, c'est la même offensive. On en parle quand même beaucoup. On le construit parce que personne ne le connaît. Enfin voilà, ce que disent les journalistes à la télé, c'est il est super connu parce qu'il a écrit des livres. Ouais, ça me paraît pas super crédible, mais bon, il faut le construire comme potentiel candidat, parce qu'il n'existe pas médiatiquement, en fait, et il n'a pas d'histoire, quoi. À part son petit clash avec Macron en début de mandat. Je vais... Ouais.
On avait évoqué le fait que... En fait, tous les lois de sécurité, bah, la loi sécurité globale, le renforcement du pouvoir de la police, de la justice répressive, etc., étaient l'anticipation du développement de la crise économique et du coup aussi de troubles sociaux. Je trouve que ça rejoint parfaitement cette logique-là, en fait, cette préparation de la candidature possible de Villiers du général.
Ouais.
Et Macron aura fait le taf avant aussi de renforcer l'appareil d'État répressif.
Et on va On va justement aller s'intéresser à l'article du Télégramme avant de repasser un bout d'Acrimed, voilà, qui va nous dire de quoi on lui parle aussi sur les radios télé, sur les radios et les télés. Le Télégramme, c'est un peu plus bourrin, quoi. Hein, il s'adresse aux bourrins, donc ils y vont pas par quatre chemins. Cinq choses à savoir sur Pierre de Villiers, le général qui viserait l'Élysée. Donc cinq choses pour un potentiel dictateur de la Ve République. Ça peut sembler léger, mais bon, ils vont nous l'expliquer. Numéro 1, démission fracassante. Voilà, vu que c'est le seul moment en fait où il a existé politiquement ou dans médiatiquement, c'était au moment où il s'est démissionné de l'état-major en protestant contre les soi-disant coupes budgétaires de Macron. Donc on nous rappelle ça pour qu'on le situe, parce que vraiment personne ne le connaît quoi à la base. Il faut quand même qu'il y ait un truc qui le situe. 2. Le militaire le plus populaire. Donc là, c'est la blague sur il est connu parce qu'il a écrit des livres. Donc voilà, c'est le militaire le plus populaire. Évidemment, il n'y a pas vraiment de fait quoi, dans l'article du Télégramme, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'ils affirment.
Et puis il n'y a pas beaucoup de concurrence.
Ça n'a pas trop le vent en poupe, quoi, mais bon. Il y a des gens dans la gendarmerie, par exemple, qui se sont illustrés dans le maintien de l'ordre, qui sont plus connus, je pense, que. Et donc illustrés avec des guillemets, hein, mais qui sont plus connus que le général de Villiers, quoi, mais bon. Numéro 3, ma crainte, c'est la guerre civile, entre guillemets, donc c'est ce qu'il dit. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, lui c'est le candidat anti-guerre civile. Numéro 4, choqué des violences policières. Et donc c'est... Ce qu'il y a à savoir, là, le point 4, par exemple, il est entièrement entre guillemets. C'est juste ce qu'a dit Pierre de Villiers. Donc vraiment, c'est le journalisme manière télégramme, hein, mais bientôt, on va devoir plus dire journalisme de préfecture, faudra dire journalisme de caserne ou un truc comme ça. Et donc là, c'est en gros... Alors, d'un côté, il met les violences policières sur le même sur un pied d'égalité avec les violences des manifestants. En plus, en disant que le niveau de violence est décidé par les manifestants, donc bon, voilà. Mais en même temps, on va essayer de le construire comme quelqu'un qui saurait s'opposer à la police. Ce qui peut le mettre en opposition avec Macron, où on voit la police en roue libre, et donc on comprend facilement la réflexion, c'est si tu mets un militaire, voilà, lui aussi il a des fusils, et il saura mettre la police au pas. Mais bon, visiblement, il a pas l'air. Ça a l'air d'être plutôt les manifestants le problème pour lui que la police, quoi. Et numéro 5, candidat à l'élection présidentielle. 5 points d'interrogation. Donc voilà, là, ils entretiennent un petit mystère, puisqu'évidemment, il faut pas dire que t'es candidat à la présidentielle. Enfin, on l'a entendu dans les extraits là d'Acrimed.
Ça serait lui le candidat hors système annoncé par ces mêmes médias.
Je crois que c'est Sébastien Fontenelle que j'ai vu dire ça sur Twitter. Vous pouvez suivre. Il y a plusieurs trucs que j'ai vu liés à ça. Il y a Mathieu Rigouste qui a reposté la carte du monde diplo, là, qui possède quoi dans les médias, pour essayer de faire un tour de c'est qui qu'il y a derrière, en fait, comme milliardaire ou machin. Et donc, il met, après une rapide recherche, ça semble être plutôt Dassault, Bolloré, Bernard Arnault, Pinault, bon, qui ont quelque part et quelques intérêts dans le CAC 40 et dans le complexe militaro-industriel, ouais. En gros. Et après, il met littéralement combien de temps avant que cet ancien chef d'état-major, Cato Tradi, porté par les grands médias et le complexe militaro-industriel d'un des principaux pays vendeurs d'armes dans le monde, soit présenté comme anti-système. C'est ça, hein. Enfin, voilà, il y aura ça aussi, mais le moment, on n'en est pas là encore. Il faut d'abord le présenter, parce que personne ne le connaît. Et ensuite, dire un peu, enfin, situer comme un candidat de droite aussi. Faut le connaître, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il est censé représenter politiquement, quoi.
Un candidat de la France, pas de droite ou de au-dessus des partis.
Bah, ça sera sans doute ça aussi le message à un moment, mais on n'en est pas encore là dans le récit médiatique. Là, le récit médiatique, en gros, ça fait suite à Samuel Paty, l'assassinat. Et en gros, tout le délire qu'on a pas mal raconté déjà dans la Midinale sur les périls de l'islamisme, enfin voilà, si vous ne pigez pas, vous pouvez aller voir d'autres sites, d'autres articles d'Acrimed sur Valeurs Actuelles ou Marianne, ou, enfin voilà, comment ouais. On construit ce discours-là aussi.
Sinon, il y a les articles de Samuel Gontier, là, sur, qui a un blog hébergé par Télérama, où il s'amuse à zapper d'une chaîne info à l'autre et d'en sortir le sel, quoi.
Ouais. Et donc, visiblement, ce qu'il faut comment il faut le présenter, c'est... lui, il mettra fin au péril islamiste par la répression et l'ordre, quoi. L'ordre et la morale. Enfin, voilà, on voit bien un général traditionnel catholique. On voit bien ce que ça veut dire. Et c'est ça qui est attendu là maintenant, parce qu'en gros, vous voyez aussi, donc il y a l'islamisme, mais il y a aussi en gros les casseurs, les gilets jaunes, les djihadistes verts, enfin voilà. Et donc ça aussi, ça en lien avec ce discours, l'autorité, la morale, l'ordre.
Le retour du parti de l'ordre.
Voilà.
Et ça, c'est historique. La bourgeoisie qui se radicalise lors de troubles révolutionnaires, enfin... pendant ou après des troubles révolutionnaires.
Et donc, comme tu dis, c'est pas nouveau dans l'histoire, et à chaque fois dans l'histoire, la bourgeoisie a su trouver des porte-paroles de ce discours-là dans les médias. Et là, on va écouter le deuxième extrait d'Acrimed avec voilà, plus comment on construit, c'est quoi son discours politique.
Imaginait-on un jour qu'un ancien général d'état-major des armées deviennent un fantasme pour certains Français.
Vous publiez ce nouveau livre, L'équilibre est un courage, après servir et qu'est-ce qu'un chef. Vous y parlez de cette demande d'autorité exprimée par les Français.
Le rendez-vous avec le général Pierre de Villiers, c'est tout de suite.
Mon général, au lendemain de la cérémonie hommage à Samuel Paty, décapité par un terroriste, est-ce que vous pourriez employer le terme « nous sommes en guerre » ?
Et comment on fait la guerre maintenant ? Quelles sont les mesures à prendre maintenant ?
Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, dit Elisabeth Badinter. Il faut accepter...
Vous qui connaissez le sens des mots, le sens du vocabulaire militaire, Pierre de Villiers, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui en France un risque de guerre civile ?
Oui, quels risques sont les ferments d'une guerre civile ?
Alors, on va écouter Marine Le Pen, parce qu'elle s'est exprimée très vite après, et elle a demandé une législation de guerre, écoutez.
Puisque le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre.
Est-ce que vous, le militaire, le chef d'état-major, vous dites oui, il faut une législation de guerre, des lois d'exception ?
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change nos lois, qu'on change peut-être nos institutions, qu'on accepte peut-être aussi de renoncer à certaines de nos libertés chéries ?
Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui demande une législation de guerre, une stratégie de reconquête républicaine contre l'islamisme radical ?
Trouvez-vous la France trop laxiste ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, est-ce que vous trouvez qu'il ne va pas assez loin ? Dans l'application des lois et pour faire régner la sécurité en France.
Hier, Christian Jacob disait qu'il existait un lien entre l'islamisme radical et l'immigration. Vous êtes d'accord avec ce lien ?
Alors, le profil des deux derniers auteurs des attentats, pakistanais, tchétchènes, est-ce que, donc récemment arrivé dans la dernière vague de migrants, est-ce qu'il faut changer les règles du droit d'asile ?
Vous racontez cette anecdote d'un jeune caporal issu d'un quartier difficile à qui vous remettez la croix de la valeur militaire. Vous lui dites « J'ai vu votre état de service, vous êtes un héros ». Et il vous dit « Non, mon général, je n'ai fait que mon devoir. Je l'ai fait pour la France, pour lui rendre ce qu'elle avait donné à mon grand-père, l'accueil ». Est-ce que ça encore c'est possible aujourd'hui ?
Oui. Vous utilisez les mots faiblesse, les mots autorité qui sont revenus beaucoup depuis le début de cet entretien. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation de l'autorité dans ce pays aujourd'hui ? Aujourd'hui et peut-être depuis plusieurs années.
Aujourd'hui, plus personne n'accepte l'autorité, c'est ça la réalité. C'est-à-dire ni dans une classe, ni dans une rédaction, ni dans un vestiaire de football. Est-ce que vous pensez que l'autorité
et Alcriel qui resteront
un jour
dans l'histoire
rétablissent dans la forme, sous la forme que vous avez connue ?
Ça veut dire qu'il faut, ce qu'on entend dans ce que vous dites, il faut remettre de l'autorité, beaucoup d'autorité ?
Les solutions, réapprendre à aimer la France à travers le service national. Vous êtes pour le reprendre le service militaire ?
Et vous évoquez le service militaire, universel tel qu'il était. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait rétablir le service militaire comme il l'était avant qu'il ne soit supprimé par Jacques Chirac? Est-ce que ça nous aurait évité d'être dans la situation dans laquelle on peut être aujourd'hui d'une forme de séparatisme dans certains quartiers?
Parmi les mesures pour réparer la France et retrouver une unité, vous proposez de, c'est symbolique, c'est contraignant, c'est profond, de rétablir ce service militaire qui avait été supprimé en 96 par Jacques Chirac. C'est ce fameux brassage social, ce dialogue que vous appelez à retrouver dans un rétablissement du service militaire.
Bon, encore un beau montage quoi, hein, d'Acrimed. Faut imaginer ce que donc Kylian Sturm et Pauline Perrenot se sont infligés pour réaliser ce genre de montage quand même. Mais bon, ça, on comprend bien du coup quoi, ce qui est construit, la loi et l'ordre, l'autorité, les trucs un peu à la papa, genre service militaire.
Je sens qu'on va être bien là pendant un an et demi jusqu'à mai 2022, là. Ça va être super.
Ouais, si c'est ça, alors voilà, on peut toujours se demander, dans les constructions comme ça de personnages politiques ex nihilo, disons, il y a des ballons d'essai aussi. Enfin, tu vois, oui. genre Laurent Geoffrin, là, son truc, bon, on n'en entendra pas parler, je pense, jusqu'à 2022. Mais bon, des fois, il y a des vraies offensives qui marchent. Là, quand même, ça rappelle Macron dans l'unanimité et la simplicité du discours. Tu vois, Macron, c'était la rupture, le banquier jeune, efficace, quoi, c'était très simple. Et là, le truc en 5 points, là, du télégramme, c'est très simple aussi, hein. C'est quelqu'un qui s'oppose à Macron, il est populaire, la guerre civile, et donc lui, il est contre la guerre civile, et choqué des violences policières, donc ça s'est allié au truc de l'ordre, machin.
Manquerait plus un petit fils caché de Mitterrand, là? Hop, ce serait super.
Donc on est vachement dans l'innovation politique. Il y a un truc un peu triste, on se disait ce matin avec Kat, en gros, le gars, si tu veux, c'est un peu un De Gaulle, sauf que c'est un héros de guerre. Et c'est, voilà, il a fait tous les grades d'officier, et puis il s'est retrouvé chef d'état-major des armées. Il a fait la guerre un peu aussi, hein, au Kosovo, machin, bon, en Afrique, évidemment. Et bon, ça, il y a un truc à l'ancienne, quoi, voilà, droite, cato tradi, service militaire lui-même, la France, tout ça. Et en même temps, dans le dispositif médiatique de 2020, il faut qu'il aille faire des trucs dans Paris Match, et vraiment des trucs à la con, tu vois. Là, tu le vois face à Roussel Krief, par exemple, elle est dégoulinante de complaisance, et tu vois qu'il semble même un peu gêné, tu vois. Mais il est obligé d'aller faire ça pour s'il veut être candidat à la présidentielle et tout. C'est, je trouve ça assez cool au moins de voir les trucs honteux et sans aucune dignité qu'il est prêt à faire et les contradictions que ça doit être dans sa tête avec un truc qui doit ressembler un peu à De Gaulle, tu vois, la grandeur de la France et tout. C'est ridicule, quoi. Mais par contre, l'offensive, elle semble assez générale, donc on suivra, et puis on suivra, et puis on reviendra dessus si on continue à nous matraquer ça, mais c'est vrai que ça fait peur. Hein.
On va enchaîner avec le vent se lève.
Oui.
Alors, c'est ça, Lionel.
Oui. Donc le vent se lève, c'est un média sur Internet depuis 2016. Ils ont sorti un livre. En gros, c'est un recueil d'articles qui ont été publiés sur leur site. Donc beaucoup d'interviews et aussi des articles de la rédaction, des contributeurs extérieurs. C'est aux éditions du CERF. 20 euros, ça fait à peu près 300 pages. C'est une couverture mauve avec un portrait d'une femme en couverture. Donc voilà, il y a en gros la ligne du vent se lève, c'est
trois points. Il y a Gramsci, il y a aussi le populisme de gauche et la Révolution française, avec la période de la République un peu sociale jacobine. Et donc, le livre reprend en fait à peu près ces trois points, quoi. Donc, le premier chapitre s'appelle La guerre d'opposition en France. Donc là où ça parle de Gramsci. Donc ce qui est intéressant avec Gramsci, bon voilà, ils explicitent un peu les concepts avec la nécessité de la guerre d'opposition, c'est-à-dire de gagner l'hégémonie culturelle avant de partir à l'assaut du pouvoir d'État, donc que ça soit par une révolution ou par les urnes. Donc c'est l'idée un peu moins déterministe que pourrait laisser paraître un marxisme orthodoxe, économiciste, et avec l'économie qui amènerait fatalement un changement, quoi, presque mécanique, donc qui avait été avancé dans le socialisme scientifique, peut-être surtout par Engels. Et là, il y a l'idée quand même de placer aussi des gens, hein, concrètement, et puis faire vivre toute une vie culturelle, idéologique. Ça peut être, on parlait des médias, des grands médias, pouvoir un peu changer aussi de l'intérieur et amener un autre discours dans tous ces postes de pouvoir, en fait. On pense aux médias, on pense à toutes sortes de postes dans la société, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, même aussi dans la justice, enfin bref,
dans les administrations
d'une manière générale. Donc c'est vraiment à faire infuser des idées, quoi, pour pouvoir un changement plus tard. Donc il appelle ça la guerre d'opposition, et l'idée c'est de gagner l'hégémonie culturelle. Et après, il y a la guerre de mouvement, donc c'est partir à l'assaut du pouvoir d'État. Du coup, dans la deuxième partie, c'est l'ère du populisme, qu'elle s'appelle. Donc ça fait référence aux travaux de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, avec en 1985 un livre phare, Hégémonie et stratégie socialiste. Donc c'est une post-marxiste, avec les deux auteurs qui tentent d'apporter un dépassement du marxisme et répondre aux attentes, notamment sociétales, par rapport aux luttes féministes, à toutes ces luttes qui émergent dans ces années-là et qui sont moins stricto sensu sur le terrain économique et de la lutte des classes. Donc Chantal Mouffe, elle parlera de la nécessité, en fait, de créer une chaîne d'équivalence entre toutes, avec un discours qui dépasse la simple addition, finalement, de toutes ces luttes, et donc qui peut être le peuple, et donc qui a un signifiant comme ça, linguistique, censé permettre l'unification et voilà, la prise du pouvoir, hein, parce que c'est dans l'idée, évidemment, de prendre, là encore, le pouvoir d'État dans le jeu institutionnel, avec aller à l'antagonisme, créer une frontière nette entre le « nous » et « eux », donc c'est nous le peuple, eux l'oligarchie, voilà ce genre de choses, en partant quand même aussi du sens commun, quoi. Donc c'est-à-dire on n'est pas dans une espèce d'idéalisme ou de secte un peu gauchiste qui aurait comme ça un programme à appliquer coûte que coûte, mais qui s'intéresse en fait à ce que pensent les gens, et ouais, c'est ce qui se fait, ce qui se dit, sans forcément suivre aveuglement le peuple dans toutes ses dérives et tout ça. Et elle appelle ça populisme de gauche. Voilà, je parle de Chantal Mouffe, c'est évidemment pour se différencier d'un populisme de droite excluant, nationaliste, xénophobe et tout ça. C'est-à-dire que cette histoire de populisme, c'est là que je trouvais que c'est intéressant, de gauche là pour le coup, c'est une manière de stratégie aussi politique. C'est-à-dire, bon, ça peut être investi aussi de différents fonds politiques. Et on peut voir que ça a pu être utilisé par la droite, l'extrême droite même, et un peu d'ailleurs comme l'histoire de l'hégémonie culturelle de Gramsci, et quand on parlait dans les sujets précédents de toutes ces chaînes d'infos, des Zemmour et compagnie, où ils ont su justement placer des gens à des postes clés et pour diffuser leur venin.
Ouais, pour moi, l'exemple voilà, qui illustre bien ça, c'est là il y a eu une bataille qui a été perdue, hein, on va dire, pour l'hégémonie culturelle et donc contre les idées du Front National. On est dans contre ce qu'on veut. Mais et là, le Front National, ses idées sont tellement partout qu'il n'a plus qu'à ne rien faire, fermer sa gueule et en récolter les fruits, quoi, si on veut. C'est ça l'idée. Mais là, c'est perdu.
Ouais, t'as fini ou...
Non, je finis juste vite fait. La troisième partie, c'est la... qui s'appelle la crise des partis et la nouvelle donne stratégique. Donc ça revient un peu sur la stratégie de la France insoumise, mouvement 5 étoiles. Il y a une interview de Rafael Correa aussi, donc le leader
bolivien,
équatorien,
ex-président.
Ouais. Ex-président. Oui, ils ont quand même un petit réseau. Ouais, ils arrivent à avoir des, pour un jeune média, quand même avoir des beaucoup de gens bon assez connus qui intéressants aussi d'ailleurs, qui viennent être interviewés. Et là aussi, il y a tout un article sur l'axe gauche-droite et en fait l'inanité de cette de poser le clivage politique là-dessus. Après, la dernière partie, ça s'appelle « Nouvelles ressources, écologie, féminisme et mouvement populaire ». Bon, celle-là est peut-être un peu moins intéressante. Et ça, il y a un article, une interview de Judith Butler, un article sur Alexandria Ocasio-Cortez, quelque chose aussi sur trois articles sur les Gilets jaunes qui sont un peu éthérés. Bon, c'est moins intéressant, mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus concret, plus sociologique ou plus voilà. Et voilà, bon, j'en ai fini, mais je vous conseille la lecture notamment pour ceux qui s'intéressent à la stratégie politique et voilà.
Tu peux rappeler le...
Donc ça s'appelle L'histoire recommence. Donc c'est les Cahiers du vent se lève, sous la direction d'Antoine Carguet et Lenny Benbara. Donc ça, ce sont les directeurs de publication et rédacteurs en chef du Vent se lève. C'est 20 euros.
Merci beaucoup. On peut faire un enchaînement facile avec, avec le documentaire très attendu de Rigouste.
Yes. Donc le documentaire très attendu de Rigouste, il prend un parti pris assez clair sur le mot peuple. Ça s'appelle Un seul héros, le peuple. Ça raconte l'histoire d'un... Alors je reprends la description officielle. L'histoire d'un soulèvement populaire victorieux en 1960 face à une répression militarisée. Les classes populaires algériennes, avec parfois en première ligne des femmes et des enfants, surgissent depuis les bidonvilles et les quartiers ségrégés. Elle et ils mettent en échec la contre-insurrection et bouleversent l'ordre colonial. Voici aussi l'histoire de corps opprimés qui se libèrent par eux-mêmes et en dansant. Voilà, ça fait 7 années qu'il est dessus, Rigouste. Ça a été produit en autofinancement. J'imagine, vu qu'on en a parlé plein de fois et qu'on a fait la pub de ce financement plein de fois dans la Midinale, que tout le monde ici a participé.
Bien sûr.
Tu recevais un mail de Mathieu Rigouste, c'était trop cool. Et là, ça y est, la post-prod, qui était l'objet de la dernière cagnotte, est terminée. Et il va passer en diffusion cette semaine. Il sera en ligne. Donc le site, c'est unseulhéroslepeuple.org, tout collé, quoi. Et on peut le trouver. Il est à prix libre. Donc, en fait, tu peux donner 1 euro, 2 euros, 3 euros sur Hello Asso, un peu comme pour Radio Piquesse, et enfin, même carrément comme pour Radio Piquesse. Et si tu veux l'avoir gratuit, tu peux aussi le visionner. Et donc, ça sera à partir de jeudi, c'est le 10, jusqu'au 15. On vous le conseille vraiment, on vous en a déjà parlé assez pour peut-être pas avoir à vous le représenter plus que ça, mais voilà, si je pense s'il y a un docu à regarder rapidement, les histoires de contre-insurrection, les histoires de débordement populaire, voilà, dont on a pu comprendre depuis le début de la Midinale et les autres que ça nous intéresse. À partir de jeudi, donc, il sera disponible Un seul héros, le peuple, de Mathieu Rigouste. Et si vous voulez suivre ce qui se passe, vous pouvez suivre Mathieu Rigouste sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, où il s'intéresse à d'autres choses aussi. On en a parlé tout à l'heure par rapport à ce nouveau général.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on enchaîne direct là avec le dossier vente d'armes ?
Alors ouais, peut-être je vais faire vite fait pour finir la partie s'informer autrement. Je voulais juste vous parler d'un article d'une enquête du média disclose.ngo que vous pouvez retrouver sur le site disclose.ngo. Ça s'appelle « Vente d'armes, en secret, l'exécutif déclare la guerre au Parlement ». Et ça raconte les jeux de pouvoir en fait autour de... des ambitions de contrôle du Parlement sur les ventes d'armes. Donc c'est un discours, je ne sais pas si vous voyez à quel discours ça correspond, c'est pour empêcher de vendre des armes à des pays qui en font un usage génocidaire, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, il faudrait un contrôle populaire, entre guillemets, enfin du Parlement, en tout cas de la dite représentation nationale, et il y a des velléités de ça, d'un peu tous les bords politiques, à part sans doute l'extrême droite, mais entre autres de la partie dite de gauche, type France Insoumise, ou ce qui reste du PS, ou des trucs comme ça. Et... Bon, ça c'est ce qui est affiché dans les médias, quoi, disons. Et après, évidemment, il y a des jeux de pouvoir qui jouent. Et donc, entre les intéressés au business des armes, donc le complexe, ce qu'on appelle rapidement le complexe militaro-industriel, l'exécutif, donc l'Elysée et Matignon, et le Parlement là, qui serait censé contrôler les ventes d'armes. Et ils se sont procurés plusieurs notes confidentielles défense et des mails, des échanges textuels entre des gens au Parlement, en gros, et l'exécutif, entre autres donc Jean-Yves Le Drian, voilà, qui s'occupe de ces histoires d'exportation et du lien géopolitique direct qu'elles ont. Les députés macronistes, enfin voilà, la Macronie à l'Assemblée. Et aussi entre le Matignon, quoi, le Premier ministre, qui a la main, quoi, sur les exportations, les questions éthiques que ça peut poser, et la majorité au Parlement qui est censée avoir désigné ce gouvernement. C'est assez parlant, parce que ça, en gros, c'est un article assez court, hein. Mais ça raconte la dichotomie entre les réels jeux de pouvoir et ce qui est affiché dans les médias, quoi. Donc typiquement, ou par les politiques, donc typiquement ces histoires de commissions parlementaires sur la vente des armes qui seraient censées valider ou ne pas valider éthiquement une vente d'armes. Or, il y en a, enfin, c'est pas ça la réalité du pouvoir. Hein. Il y a des gens qui vendent des canons, ils ont beaucoup d'influence au sommet de l'État, et donc on négocie directement entre l'Arabie Saoudite et Matignon. Je vais vous lire la fin de l'article qui raconte ça très bien. C'est titré « Ouverture en trompe-l'œil ». Et je vous lis donc la suite. L'exécutif aurait-il peur du contrôle démocratique? Il s'en défend et feint même de vouloir protéger les députés contre un piège tendu à eux-mêmes. Donc là, il cite une de leurs sources. Les parlementaires impliqués dans le contrôle des exportations ne pourraient pas répondre aux demandes de transparence et se retrouveraient de facto solidaires des décisions prises, explique le document. En d'autres termes, s'il leur prenait de vouloir contester la politique de vente d'armes de la France, les élus seraient de toute façon soumis au secret défense. Inutile donc qu'ils perdent du temps. Pour finir, les services du Premier ministre formulent une liste de recommandations quant à la réaction à adopter face à cet épineux rapport. Parce que, à la base, on en avait parlé à la soumission d'un rapport parlementaire. Première d'entre elles, donc c'est comment l'exécutif Matignon et les gens qui ont un intérêt dans la vente d'armes doivent se positionner. Les recommandations, première d'entre elles, adopter une position ouverte sur les propositions de renforcement de l'information au Parlement. Donc il faut être ouvert sur les trucs de commission d'enquête, de commission de surveillance des ventes d'armes. Un trompe-l'œil car l'essentiel est ailleurs. Il continue avec la note qu'ils ont eue qui vient de Matignon. Il convient, poursuit le texte, de confirmer avec les principaux responsables de l'Assemblée nationale qu'ils s'opposeront à la plus importante proposition du texte, soit la création d'une délégation parlementaire. Donc en gros, on a droit d'en parler, mais il ne faut pas qu'il y ait un truc concret qui se passe. Une délégation parlementaire, ça c'est light hein, au niveau des revendications de ceux qui voudraient un contrôle éthique des ventes d'armes. Mais ça, c'est niette, et il faut que Matignon soit ferme avec ses députés sur le fait que c'est niette. Ils ont droit d'en parler, mais c'est tout. Et la dernière suggestion du rapport invite l'exécutif à définir une ligne de communication face à la médiatisation du rapport et les réactions des ONG. Une ligne de communication désormais beaucoup plus claire, en effet, donc c'est suite à cet article-là, qu'a tout raconté de... Voilà, il s'agit de laisser faire du bruit, parce que ce serait contre-productif, en gros, d'afficher qu'on veut aucun contrôle citoyen, aucun contrôle populaire des ventes d'armes. Mais par contre, c'est important que même une délégation au Parlement, ça ne voit jamais le jour. Voilà, c'est basé sur des documents confidentiels défense, comme pas mal d'enquêtes de Disclose qui ne s'en tient pas, en tout cas, à ce que les militaires décident de ce qui est d'intérêt public ou pas. Ils expliquent ça à la fin de leur article, parce qu'ils sont parfois attaqués là-dessus. La note confidentielle défense dont Disclose a été destinataire est protégée par l'article 413.9 du Code pénal sur le secret de la défense nationale. Nous avons néanmoins décidé d'en publier le contenu, car ces informations relèvent de l'intérêt général et doivent par conséquent être portées à la connaissance du public. Par souci pour la sécurité de nos sources, nous ne publions pas l'intégralité, le document dans son intégralité. Et je trouve ça assez chouette, je vous invite à suivre ce qu'ils font Disclose, donc c'est du travail d'enquête en gros, des enquêtes assez approfondies, ils prennent le temps de faire les choses, et c'est des enquêtes sur des sujets qui n'existeront pas dans d'autres médias, en tout cas pas avec cette qualité-là. Et qui se veut un peu dans la ligne de Wikileaks, par exemple. Donc c'est qui s'arrête pas au confidentiel défense, parce qu'il y a des informations d'intérêt public dans ce que recouvre désormais de plus en plus largement la notion de secret défense. Quoi.
Comment t'écris ça, Disclose ?
Disclose, c'est D-I-S-C-L-O-S-E.
Ok.
Disclose, ça veut dire... tu vois, c'est là où tu vois aussi une lignée avec Wikileaks, ça veut dire... Comment on dit en français ? Merde, quelqu'un peut m'aider ?
Déclassifier ? Non ?
Publier, quoi. Enfin, tu vois, ouais, rendre public, on dirait, je crois. Donc, il y a un parti pris assez clair par rapport à causer par typiquement de l'industrie de la défense. L'autre truc assez bien vu, c'est qu'ils sortent donc cet article aujourd'hui, jour de la venue du maréchal Sissi en France, donc le dictateur brutal de l'Égypte, qui est le premier client de l'industrie militaire française en 2019.
Très bien. On fait une pause musicale avant de terminer cette midinale.
Yes, j'ajoute que les pauses musicales semblent être validées par la snob, donc ça va, on fait pas trop de conneries, les darons sont pas là aujourd'hui, mais On s'en sort, apparemment.
On a l'onction.
Tanktop, Sony macht den Bankjob, Kay wird gefickt, es ist One Night in Bangkok. Verdammt, Streetfighter, was ist los jetzt für Freestyler? Wenn ich komme, rap so auf den Knien weiter. Es ist mitten in der Nacht, ich bin draußen. Deutschrap hat schwarzes Haar und dunkelbraune Augen. Sag, was willst du Opfer machen, wenn ich zu einem Wolf mutier? Ich fick deine Mutter und dein Vater hängt beim Golfturnier. S-O-N-N, Nutte, es ist Gangbang. Ich bin Einzelgänger und mach nicht auf Wu-Tang Clan. Der Lonesome Raider, kleiner Hosenscheißer. Du hast höchstens große Eier in deinem Foreneintrag. Ich bin Sonny Black, ich stehe mein Mann. Kämpfst du gegen mich, kämpfst du gegen eine Wand. Guck die Ghetto-Kids, sie nehmen meine Lebensweise an. Deine Mutter ist eine Hure, weil sie Hefeweizen tankt. Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Mutter, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist 2014, Pöbelei via Twitter. Du schwuler Spaß singst immer noch, Cry Me a River. Ich komm aus der Stadt mit den Tags an den Wänden. Die letzten echten Cowboys, Western-Legenden. Ticker von der Hasenheide und du wechselst jetzt die Straßenseite. Denn ich bin nicht deine Kragenweite, Kung-Fu-Fighter. Mund zu kleiner, die Straßen sind mein auch ohne Grundbuch-Eintrag. Yeah, wie ich Tag für Tag deine Mama bums. Dein Vater ist noch immer blau, nenn ihn Papa Schlumpf. Du kleiner Bastard, küsst die hoch aus Wand. Denn hier gibt es keinen Notausgang. Rest in Peace, Nutte, brandneue Air Max, Zahnstocher sitzt. Ich mach Probleme wie der Nahostkonflikt. Und mir ist scheißegal, ob du ein Hardrocker bist. In Berlin wird dein Arschloch gefickt. Yeah, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, yeah. Fick dein Reimschema, Nutte, ich bin Gangster. Ich ficke RTL, diesen Hurensohn Sender. Da kommt der pädophile K endlich hinter Gitter. DSDS, Paradies, war du Kinderficker. Ich wünsche allen bei der BZ und bei DSDS einen positiven AIDS-Test. Es ist Tempelhof, hier gibt es kein Tempolimit. Guck mich an, ich bin mehr Gangster als mein Gangster-Image. Yeah, ich bin der Mann für die harten Jobs. Was will Prinz Markus, der Tomatenkopf? Hurensohn denkt, dass er die Welt regiert. Doch hat den Kidsbühl von Arafat Schenk kassiert. Wir machen im Café FIFA-Turnier. Grüße diese Opfer von der Bild und vom Berliner Kurier. Diese Pisser schieben einen Hass auf mich, als wär ich Hitler. Ich hab 4 Kinder, Ehefrau und ficke eure Mütter. Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte.
Yeah. Esos MCs con su postureo dicen que no soy real. Hablan de ghetto y solo lo han visto en documental. Dicen que su rap está avanzado a su tiempo y solo copian grupos yankees pero sin talento. Yo pillo el micro y cierto, a mí nadie me tose cerdo. ¿Quieres joder con estos? Tú mejor ponte a cubierto. Y deja de fingir y de mentir contra fake MC. Soy cocodrilo dandy. Y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos. Normal si luego actúan solos. Toman al fan por bobo que no valora sus promos. Y yo jugando a
waterpolo dentro de sus lloros. Tú no eres un buscavidas, un buscavidas fue mi padre migrando por comida, y tú jugando a ser camello, ¿verdad? Y lo único que tienes blanco es tu vida laboral. Guarda el disfraz, el rap no es una moda, pibe. Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe. Mejor que te pires, que vuelve a jugar el líder. Y además de un himno, hoy también he escrito un crimen. Y deja ese rap fariseo, niño de papá jugando a perro callejero. Pero si tanto dices ser de barrio, acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio.
Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Hemos vuelto como Skynet. Soy el pibe que en las tanqueras salió de un container. Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile, haciendo de Jack Lemmon en tu apartamento. Soy tu Billy Wilder, menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. Ocho apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas, tanta mediocridad hace que me falte el aire. Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico, los conciertos, los lunáticos, el trepas tirando de tretas. Vigila esas letras, que esa mierda no la baila ni Mikel y Zeta. Ahora di que la fama se la debo al coletas, no, ya te follaban las maquetas. Tengo a la grada inquieta, esperando el beef, pero los chicos del maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis. ¿Lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos, rojos y blasfemos. Vengo a quemar la tienda. Nega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda. Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z, las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio. Esta vez en Trichini, no compito con Drake, compito con Pasolini. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante.
Desde el colegio, ninguno de los dos ha evitado jamás el conflicto físico. No, no porque les guste, no, sino porque consideran que rendirse no es una opción.
No nos criaron para ser cobardes.
Ah, sí. Criar. ¿Y quién le crió a gente?
¿A mí? Los lobos.
Tienes groupies que son groupies de roncero e Inés arrimadas. Me dan vergüenza ajena, no digo nada, así mirando de pasada. Y son cosmopolitos mourinistas que luchan por la unidad de España. Que cobro por entrada, joder, qué locura. Lógico, estudiaste en un cole de curas. El problema es que cobro más que tú y tu grupo juntos. No mordemos la almohada al poder, ya somos el poder y punto. Flow de Marte, a hierro, lo dijo Sartre. Un anticomunista es un perro, yo el estandarte. Y tú a remolque, esperabais esto, como el regreso de Skywalker. Soy caso aparte, te contaré un secreto. Yo tengo un grupo, tú una banda, tributo a un paleto. Porque yo y mis Ray-Ban estáis alucinando, compas. Como DiCaprio en Shooter Island, mira cómo la bailan. Yo soy mejor que Messi. Tengo principios como Jesse Pinkman. Puedo follarte a lo Casey o a lo Metro, ¿viste? Solamente te hacen caso las revistas hipster. Triste, no ganas ni pa' bases. ¿Qué ocurre, chico? El cocodrilo no suelta a los verdes. Por lo visto, solo paga disfraces. Y tú soñando con ese Mercedes, pavo. Límpiate que tienes sabo, deja actuar a los magos. Estoy muy adentro, siénteme con ese look de Zeus San Pablo. Hablo del rey de los cuñados. No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg. Y de curro en Ciudadanos, no lo descarto. Te van las bolsas y quedar el cuarto. Soy el nega, go hip hop, no anuncios de ropa. Yo soy el nega, no el pagafantas de Carlota.